Vous écoutez Radio France Internationale, il est 18h30 en temps universel et à Dakar, 19h30 ici à Paris.
Afrique Soir sur RFI.
Et c'est la première édition d'Afrique Soir de ce mercredi. Elle vous est présentée par Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous. Elle a eu une inquiétude et indignation des autorités sénégalaises sur les conditions d'expulsion de leurs ressortissants par la Mauritanie. C'est ce qui ressort d'un rapport parlementaire et de déclaration de la chef de la diplomatie sénégalaise hier lors d'une plénière de l'Assemblée nationale. Devant une commission parlementaire, Yacine Fall a évoqué des traitements inhumains subis par les personnes arrêtées et rapatriées depuis la Mauritanie. Nous parlerons aussi de cette nouvelle scène de massacre de civils au Burkina Faso, massacre perpétré en début de semaine dans l'ouest du pays par des militaires contre des communautés soupçonnées d'être de mèche avec des terroristes. Nous reviendrons également sur la tournée du président ghanéen John Dramani Mahama dans les trois pays de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Le dirigeant ghanéen a affirmé la nécessité que la CDAO, la communauté ouest-africaine, reconnaisse la nouvelle alliance qui a rompu avec l'organisation régionale. Mais avant de développer ces titres, direction Lille dans le nord de la France pour la suite des huitièmes de finale, retour de la Ligue des champions de football. Ça se passe au stade Pierre Mauroy où on retrouve tout de suite Thomas de Saint-Léger. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Zéphirin.
Le club allemand de Dortmund avec son attaquant guinéen Serhou Guirassy affronte le LOSC, les Lillois donc. Nous nous approchons de la fin de la première partie et le LOSC mène 1-0 visiblement.
Exactement, je vous le confirme, Zéphirin, 1-0 pour Lille, le but de Jonathan David. On est dans les arrêts de jeu de la première période et vous citiez Serhou Guirassy, il a fait passer quelques frissons aux supporters nordistes tout à l'heure avec une frappe qu'a repoussée de manière miraculeuse le gardien lillois Lucas Chevalier. Beaucoup de vagues jaunes sur le but lillois depuis l'ouverture du score, mais ils tiennent bon les dogs et ils vont sans doute pouvoir rentrer au vestiaire avec cet avantage synonyme de qualification pour l'instant. Il restera derrière minimum 45 minutes à tenir encore.
Ouais, 45 minutes à tenir. On vous retrouvera très probablement donc à l'entame de la seconde partie, Thomas de Saint-Léger. Dans l'actualité également, les autorités sénégalaises inquiètes et indignées face aux conditions d'expulsion de leurs ressortissants de la Mauritanie voisine ces derniers jours. C'est ce qui ressort d'un rapport parlementaire et des déclarations faites par la ministre des Affaires étrangères sénégalaise, Yacine Fall, hier, lors d'une plénière à l'Assemblée nationale. À la Dakar, les précisions de Léa-Lisa Westerhoff.
Interpellée sur le sujet par plusieurs députés, la ministre des Affaires étrangères a dit regretter les conditions d'arrestation et d'expulsion des Sénégalais depuis la Mauritanie ces derniers jours. Bien sûr, chaque pays a ses lois, a déclaré Yacine Fall à la presse, mais on doit respecter les droits des personnes et, je cite, ne pas maltraiter comme on l'a vu récemment. Des discussions avec les autorités mauritaniennes sont en cours, a également affirmé la chef de la diplomatie sénégalaise. Se voulant rassurante, Yacine Fall a soutenu que d'ici la fin du mois de mars, les choses devraient s'améliorer avec la promesse de la Mauritanie de transmettre au Sénégal les modalités d'obtention du titre de séjour et de la carte de résidence pour les Sénégalais. De leur côté, les ONG continuent de s'inquiéter de refoulements tous azimuts à destination des subsahariens et ce même si certains ont des titres de séjour encore valables, comme l'affirme l'Association Mauritanienne des Droits de l'Homme. La MDH qui confirme également des cas de rafles et de mauvais traitements en détention de la part des autorités mauritaniennes. Léa-Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Nouvelle scène de massacre de civils au Burkina Faso, massacre perpétré en début de semaine dans l'ouest du pays entre Bobo Dioulasso et Nouna précisément. Plusieurs villages ont été ravagés par les forces militaires burkinabées. Le récit de Frédéric Gara.
Les images qui circulent sur les réseaux sociaux sont parfaitement abominables. Des hommes armés enjambent des dizaines de corps, soit ligotés, soit abattus sans autre forme de procès. Couchés à même le sol contre un de ses parents, on aperçoit un bébé de quelques mois qui semble hurler à gorge déployée, la bouche dans la latérite. Pour ajouter à ce macabre spectacle, une autre vidéo montre un triporteur chargé de dizaines de corps, morts ou vivants, difficile à dire, un tas d'humains sur lequel s'assoient sans le moindre respect deux membres des VDP plaisantant avec leurs camarades. Ces scènes se sont passées entre lundi et mardi dans différents villages de la zone de Solenzo et elles se poursuivent encore selon certains témoignages que nous avons recueillis. La version véhiculée par les supporters de la junte burkinabé tente à justifier ces razzias contre des voleurs de bétail et des complices de terroristes que trois bataillons d'intervention rapide auraient neutralisés avant de récupérer le cheptel. Une autre version, plus officieuse, accrédite plutôt la thèse d'expédition punitive contre la communauté Peul, suspectée d'être de mèche avec les terroristes qui sévissent au Burkina Faso.
Frédéric Gara, le président ghanéen John Dramani Mahama, fait lundi sa tournée des pays de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Au-delà des déclarations sur le renforcement des relations bilatérales, économiques et sécuritaires, le président ghanéen a tenu des propos qui ne sont pas passés inaperçus. John Dramani Mahama a évoqué la réalité irrévocable que constitue l'AES, reprenant à son compte le vocable des trois pays, alors que la CDAO tente toujours de les réintégrer en son sein. Il a aussi affirmé la nécessité de la reconnaissance de l'AES par la CDAO. Bonsoir David Bachet.
Bonsoir Zéphirin.
C'est le dossier de cette édition d'Afrique Soir. Comment comprendre cette proposition? Quelle suite pourrait-elle connaître, David?
Alors, premier point, Zéphirin, cette proposition de reconnaissance de l'AES par la CDAO n'a pas été discutée, encore moins décidée au sein de la CDAO. Plusieurs cadres de l'organisation ouest-africaine l'ont indiqué à RFI. C'est une initiative du président ghanéen qui n'engage que lui. Certains acteurs ont même été mécontents de constater que John Dramani Mahama reprenait à son compte le caractère irréversible de la décision des trois pays de claquer la porte, alors que la CDAO s'est donnée jusqu'à fin juillet pour les convaincre de revenir. Ceci dit, ce départ est effectif depuis janvier et l'AES est une réalité. La reconnaître, c'est donc à minima ne pas se cacher les yeux. Mais cela pourrait être davantage. La CDAO et les trois pays doivent négocier les modalités de sortie. Ces négociations n'ont pas commencé. Elles pourraient se faire pays par pays, avec le Mali, le Niger, le Burkina, ou entre blocs, CDAO et AES. C'est d'ailleurs la demande des trois régimes militaires. La CDAO acceptera-t-elle? Certains acteurs plaident pour, dans l'idée d'apaiser les tensions, de favoriser une sorte de divorce à l'amiable. La reconnaissance de l'AES comme communauté économique régionale, au même titre que la CDAO ou la SADC, serait encore un palier supplémentaire qui semble moins accessible. En tout état de cause, le président ghanéen n'a pas précisé sa pensée et ni la CDAO ni aucun chef d'État ouest-africain n'a réagi jusqu'à présent à cette proposition.
Et on poursuit la réflexion, David Bachet, avec l'économiste malien Modibo Mao Makalou, ancien conseiller à la présidence, aujourd'hui à la tête du cabinet de conseil IBS. Modibo Mao Makalou, invité d'Afrique Midi, interrogé par Nicolas Sûr, il nous donne quelques éléments de compréhension de l'opération séduction du président ghanéen.
Le Ghana est quand même le chantre du panafricanisme et de l'intégration africaine. D'abord, au niveau de la création de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963, qui est devenue par la suite l'Union africaine, notamment le rôle éminent que le Ghana a joué à travers le président Kwame Nkrumah. Et vous savez aussi que le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine se trouve au Ghana. Donc, évidemment, le Ghana, en tant que chantre du panafricanisme, a un rôle prépondérant dans l'intégration africaine, mais aussi le Ghana est un pays anglophone qui peut mieux dialoguer, je pense, avec ces trois pays francophones qui sont dans une passe un peu délicate avec certains de leurs voisins, surtout francophones. Je pense aussi que le président Dramani Mahama est vu avec un préjugé plutôt favorable.
Notamment parce que le Ghana n'aurait pas cette étiquette de complicité avec la France ou d'agir selon les intérêts de la France. C'est ça que vous nous dites?
Cela est très important, oui, parce que cela est vu comme une mission de bons offices d'un pays africain qui n'agit pas pour le compte d'autres puissances. Et je pense que cela aussi est très important pour nous et renouer ce dialogue. Et je pense aussi le fait que le Ghana vienne non seulement pour parler des relations entre l'AES et la CDAO, mais aussi sur le plan bilatéral, au niveau du commerce, le corridor
Alors,
sud.
Oui, si vous voulez, on va revenir spécifiquement sur ce point. Pensez-vous que le président ghanéen pousse aussi ses pions dans les pays de l'Alliance des États du Sahel parce que son pays a des intérêts sécuritaires et économique à défendre?
Absolument. Je pense que c'est bien joué de la part du président ghanéen. Parler avec les trois chefs d'État de l'AES, c'était bien indiqué. Et je pense aussi que le fait que le Ghana, qui quand même est le premier producteur d'or africain, et vous n'êtes pas sans oublier que le Mali et le Burkina sont de très importants producteurs d'or en Afrique, notamment troisième et quatrième. Donc je pense que le fait que les pays se parlent au niveau du commerce et des investissements, cela est une très bonne chose. Mais vous savez aussi qu'il n'y aura pas de paix sans développement et que la crise au Sahel s'est métastasée et que actuellement le Golfe de Guinée est très menacé par les groupes terroristes et les groupes armés aussi. Cette lutte ne peut avoir de solution sans une coopération sous-régionale et régionale.
Voilà l'économiste malien Modibo Mao Makalou, interrogé par Nicolas Sûr.
Afrique Soir sur RFI.
Et direction l'extrême nord du Cameroun où les 20 personnes suspectées d'avoir participé à l'assassinat de deux chercheurs de l'Institut de Recherche Géologique et Minière et leur guide sont toujours en garde à vue à la compagnie de gendarmerie de Mokolo. Et cela plus de 24 heures après leur interpellation. Pendant ce temps, les responsables administratifs locaux ont autorisé ce mercredi l'exhumation des corps des trois victimes. À Yaoundé, le récit de Richard Onanena.
C'était une demande formulée par les familles qui estimaient que les corps des victimes avaient été inhumés de manière précipitée après avoir été tués par la vindicte populaire. Pour le moment, les auditions des 20 suspects interpellés dans la matinée de mardi se poursuivent. Les avocats des familles des victimes espèrent que l'enquête ouverte permettra d'apporter la lumière sur ce qui s'est passé dans l'après-midi du dimanche 2 mars au village Mbalda. Une déclaration des élites du canton Lara, communauté à laquelle appartenait le chercheur Bienvenu Bello, exige une enquête indépendante, des mesures d'apaisement de la part des autorités et l'indemnisation des familles. En début de semaine, le ministère de la Recherche scientifique précisait que Mounsi Frédéric et Bello, Bienvenu, basé au centre de recherche géologique de Garoua, s'étaient rendus à Soudlé-Dérérois, accompagnés de leur guide Oumarou Kalabaye, pour effectuer une mission de recherche avec pour objectif la résolution du problème d'eau potable des populations des monts Mandara. Le ministère avait dénoncé une tuerie barbare et demandé que justice soit rendue. Richard Onanena, Yaoundé, RFI.
Le retour à présent sur cette nouvelle rencontre des présidents congolais et angolais hier à Luanda. Les deux chefs d'État se sont retrouvés en tête-à-tête au palais présidentiel dans la capitale angolaise, en déplacement de quelques heures pour Félix Tshisekedi. À l'issue de leur échange, l'Angola annonce que des discussions pourraient s'ouvrir entre Kinshasa et le groupe armé M23. Les précisions de Paulina Zidi.
Le déplacement du président congolais a été gardé secret jusqu'à la communication de la présidence angolaise qui a donc annoncé hier soir qu'elle allait, je cite, « établir des contacts avec le M23 afin que les délégations de la RDC et du M23 mènent des négociations directes à Luanda dans les prochains jours ». Du côté de Kinshasa, la porte-parole de la présidence assure que les autorités prennent acte et attendent de voir la mise en œuvre de cette démarche angolaise et Tina Salama de rappeler qu'un cadre de dialogue existe déjà dans le processus dit de Nairobi. La RDC renvoie à ce cadre ainsi qu'à la dernière résolution des Nations Unies, la 2773, qui évoque les différents processus et surtout reconnaît la responsabilité du Rwanda dans la crise actuelle. Depuis le début du conflit, la RDC a fait de ces discussions directes une ligne rouge. Est-ce que cette ligne va être franchie ? Non, répondent plusieurs sources congolaises, puisque Kinshasa met en avant, comme à chaque fois, le passage par ce processus de Nairobi, qui, pour rappel, encadre les discussions entre les groupes armés et le pouvoir central. Paulina Zidi, Kinshasa, RFI.
Et pendant ce temps, Human Rights Watch s'inquiète du rétrécissement de l'espace civique dans les zones contrôlées par le M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans un rapport diffusé aujourd'hui, l'ONG de défense des droits humains affirme que les rebelles, soutenus par le Rwanda, ont procédé à de nombreuses pressions et arrestations d'activistes de la société civile et journalistes, allant jusqu'à assassiner certains d'entre eux, dont le chanteur Delka Idango, tué le 13 février dernier. À l'époque, le M23 avait rejeté toute responsabilité dans le meurtre de l'artiste, mais des photos analysées par Human Rights Watch remettent en question cette version. Le chanteur apparaissant mort avec un pantalon blond sur certaines photos, puis en treillis sur d'autres, laisse penser à une mise en scène pour Clémentine de Montjoie, chercheuse à la division Afrique de l'organisation non gouvernementale.
On peut certainement dire qu'il a été tué par multiples blessures sur le corps et à la tête. Des experts médico-légaux que nous avons consultés ont conclu qu'il semblait se protéger la tête avec ses bras lorsqu'on lui a tiré dessus. Et enfin, lorsque nous avons échangé avec Monsieur Kanyuka, le porte-parole de l'AFC, il nous a confirmé que les M23 avaient tué Delka Tidengo car, je cite, ils avaient interdit à la population de porter des insignes militaires et qu'ils l'avaient trouvé chez lui lors d'une opération de ratissage. Dans ce contexte-là, on voit effectivement effectivement un rétrécissement de l'espace civique. Beaucoup de défenseurs et de journalistes qui sont très inquiets pour leur sécurité, qui vivent en cachette, qui disent qu'ils peuvent pas rentrer chez eux, dont le domicile est visité par des combattants M23 et dont les familles parfois sont inquiètes de se retrouver menacées aussi. Il est difficile pour les gens de fuir aujourd'hui. L'aéroport de Goma est encore fermé. Les gens se sentent surveillés et les mouvements contrôlés. Et on a vu plusieurs cas où les autorités rwandaises auraient détenu des activistes qui cherchaient à fuir le Congo en passant par le Rwanda.
Clémentine de Montjoie, contactée par Paul Lorgerie. Et puis dans un tweet, les rebelles se défendent d'avoir arrêté ou maltraité des journalistes et des activistes. Ils dénoncent, je cite, un abus d'influence pour ternir l'image de leur organisation. Et retour, comme promis, au stade de Pierre Mauroy de Lille, dans le nord de la France, pour la seconde partie de la rencontre entre le LOSC et Dortmund. Thomas de Saint-Léger, vous êtes sur place et pour l'instant, les deux équipes sont toujours dans les vestiaires. Je rappelle que Lille mène 1-0.
Oui, Zéphirin, et cette respiration, elle est bienvenue pour les Lillois qui, on le disait tout à l'heure, après leur ouverture du score un petit peu chanceuse, hein, la boulette de Grégor Kobel, le gardien de Dortmund, les Lillois qui ont énormément souffert face aux assauts du Borussia, de Guirassy, notamment Serou Guirassy, l'attaquant du Sili National de Guinée, qui a été l'un des attaquants les plus actifs. Il a déjà 10 buts cette saison en Ligue des Champions, Guirassy, et il a buté comme les autres sur l'excellent Lucas Chevalier. Et les Allemands qui ont eu juste avant la pause encore une énorme situation avec une tête de Pascal Gross qui a effleuré la barre transversale lilloise. La deuxième mi-temps risque d'être compliquée, mais ils sont solidaires, ces Lillois, solides également, on les sent armés pour résister avec au milieu de terrain une très bonne performance pour l'instant du jeune joueur international congolais Ngalayel Moukao. Les deux équipes qui rentrent à l'instant sur la pelouse, les Allemands en tête et la seconde période qui va débuter dans quelques secondes.
Voilà, épilogue de cette confrontation à suivre bien sûr dans nos prochaines éditions. Merci beaucoup Thomas de Saint-Léger en direct du stade Pierre Mauroy à Lille dans le nord de la France. Et puis ce mercredi matin au Caire avait lieu la 14e Assemblée Générale élective de la Confédération Africaine de Football. Patrice Motsepe réélu pour 4 ans à la présidence. À noter également les entrées au COMEX de Samuel Eto'o et de la Congolaise de Kinshasa, Abestine Kazadi. Et puis il s'agissait aussi de renouveler les 6 membres africains du Conseil de la FIFA. Chez les femmes, c'est la Comorienne Kaniza Ibrahim qui a été élue. Enfin chez les hommes, 5 membres dont le Marocain Fouzi Legja et l'Égyptien Hani Abourida réélu, sans surprise. Le Mauritanien Ahmed Yaya, le Djiboutien Souleymane Waberi et le Nigérien Amadou Djibrila Ima font leur entrée également dans ce COMEX. Un sacré coup hein, pour le président de la Fédération Nigérienne, Colonel Pelé, comme on l'appelle, et qui n'avait pas la faveur des pronostics. Réaction au micro d'Alice Moreno.
Satisfaction énorme, surtout pour mon pays. Parce qu'avoir 35 voix sur 53, du moins, c'est une grande visibilité. Être au niveau mondial du football, c'est une grande première pour mon pays. Et j'espère que ça permettra aux gens de tourner les yeux justement en direction du football nigérien. Nous sommes déjà sur des projets sur la formation, sur les académies d'élite, parce que les Nigériens sont toujours pleins de ne pas avoir des jeunes Nigériens qui représentent notre pays, en tout cas qui émergent au niveau de la Ligue 1 française ou la Liga, etc. L'objectif pour nous, c'est pouvoir arriver à ça, pour que les Nigériens soient fiers de voir certains d'entre eux dans les grands clubs mondiaux. Il faut qu'aussi ce qu'on appelle les petites nations de football puissent être reconnu et entendu aussi.
Un propos recueilli par Alice Moreno. Direction Bangui, capitale de la Centrafrique, où les habitants déplorent ces derniers jours des dysfonctionnements dans le travail des agents de la protection civile. Mis en cause, les responsables évoquent l'insuffisance des moyens logistiques, le manque d'effectifs, mais aussi l'incivisme de certains habitants de la capitale. Reportage Rolf-Steve Domialeux.
L'état de la maison démontre l'intensité des flammes. Lits, chaises, armoires, vêtements, appareils ménagers, tout a été entièrement détruit et parfois transformé en charbon. Éléonore est l'une des victimes.
C'est hier pendant la nuit que le feu s'est déclaré dans la maison. On n'en connaît pas encore l'origine. On a essayé de combattre l'incendie, mais on n'a jamais réussi à l'éteindre.
Tout en pleurs, elle fouille dans les décombres dans l'espoir de retrouver quelques objets importants ayant résisté aux flammes.
Nous avons tout perdu, tous nos documents, nos diplômes, les actes de naissance, notre argent. Ma fille a été asphyxiée dans l'incendie. Elle a été conduite à l'hôpital.
Les flammes ont également consumé chaque recoin de la bâtisse de son voisin Paul, laissant derrière elle des cendres et des ruines fumantes.
Les flammes étaient indescriptibles. Il n'y a pas eu de victimes, mais les dégâts matériels sont importants. J'ai tenté en vain de contacter les unités de secours. Avec l'aide des voisins, nous avons utilisé du sable et de l'eau pour essayer d'éteindre le feu.
De passage dans le secteur, Enoch se gratte les sourcils et se souvient de ce qui était arrivé à sa fille. Âgée de 8 ans, elle était accidentellement tombée dans un puits d'environ 5 mètres.
Les conditions de travail des secouristes sont à revoir. Après 1000 tentatives, nous avons eu en ligne une unité de la protection civile qui ne pouvait pas intervenir. Ils ont évoqué un manque de carburant et des véhicules en panne. Ma fille a finalement perdu la vie. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités.
Pour comprendre ces dysfonctionnements, direction la direction de la protection civile. C'est l'heure du grand rassemblement. Dernier préparatif pour ces agents de regagner leur poste. Thomas Dimassi est le directeur de la protection civile.
Le gouvernement vient d'intégrer 150 sapeurs-pompiers civils qui seront bientôt déployés dans les 20 préfectures. Le numéro d'urgence qui est le 10-10, le numéro 118 est aussi opérationnel. Il y a aussi le numéro 12-12. Donc sur tous ces numéros-là, on peut nous contacter. Mais pour le déployer, il faudrait que les éléments soient habillés, soient équipés. La principale difficulté, c'est les moyens. J'en appelle aux partenaires techniques et financiers de la RCA de nous appuyer.
En attendant de trouver une solution définitive dans certains quartiers de la capitale, les habitants s'organisent et se défendent avec les moyens de bord. Rolf Esteve Domialeux, Bongui, RFI.
Un peu d'histoire maintenant avec la sortie d'une compilation consacrée à l'un des plus grands musiciens du Bénin, le légendaire Jonas Pedro, aussi surnommé le roi incontesté de l'Abadja moderne. Retour sur la riche carrière de ce monument de la musique béninoise avec Pierre Vallée.
Une carrière très riche en effet qui commence tôt avec un premier succès, le morceau Dadje Vanovanon. Un morceau typique de l'Abadja, un rythme ancestral utilisé pour les cérémonies au sud-ouest du Bénin que Jonas Pedro va électrifier et moderniser. Et c'est sur cette base qu'il va prendre un premier chemin qui consiste à chanter des reprises ou composer des morceaux inspirés de ceux de Charles Aznavour. Charles Aznavour qui lui donnera même sa bénédiction lors d'une rencontre en Côte d'Ivoire.
Regarde autour de toi et dis-moi, montre-moi parmi ces gens, Le reste n'est qu'illusion, oui je sais. Tu es venu, nu dans ces mondes, et puis douceur.
Autre tournant dans la carrière de Jonas Pedro, lorsqu'il s'intéresse et reprend à sa façon la musique cubaine. Disons plutôt qu'il l'intègre au répertoire de son groupe, les Dadje. Un groupe qu'il a formé au début des années 70, véritable machine à groove nourrie d'abadja, de juju, de high life, chantée en mina, en yoruba, en fond, en français ou en espagnol, et qui va propulser Jonas Pedro au rang de superstar dans toute l'Afrique de l'Ouest. Preuve de la qualité du groupe, cette excellente reprise de Yiri Yiri Bom, le classique du chanteur cubain Benny Moré.
Tchau!
Se come también, si no vacilo. Se come también, que para gozar. Iribom, iribom.
Mélanger les rythmes cubains et béninois sera une de ses marques de fabrique. Dans les années 90, il intégrera le groupe de salsa sénégalais Africando, un groupe à la renommée internationale à qui il apportera sa petite touche vaudou. La compilation « Roi de la Badja moderne » vient de sortir sur le label Analog Africa et s'attache à la période des années 70 et 80, période prolifique pendant laquelle Jonas Pedro et les Dadj submergeaient les ondes de Dakar à Lagos.
Mariage, je promets renoncer aux balades, ces pavés parcourus toute la nuit au lendemain. Toutes ces filles que j'ai jadis connues, je les bêche.
Jonas Pedro avec ce titre Fini les pavés pour cette chronique signée Pierre Vallée. Il est 19h56 à Cotonou, une heure de moins en temps universel. À suivre ce soir sur RFI à 19h10 temps universel, la vie des Européens, accent d'Europe. Alors que l'ensemble de la communauté européenne soutient l'Ukraine et le président Zelensky, on compte une exception de taille, la Hongrie. Le premier ministre Viktor Orban est un proche de Poutine. Il organise une vaste campagne de désinformation pro-russe via les médias publics. C'est notamment ce que nous explique cet analyste.
Non seulement le gouvernement hongrois ne veut pas réagir à cette déstabilisation, cette guerre hybride menée par la Russie, mais d'une certaine façon, il la soutient. Par exemple, la télévision publique hongroise, enfin soi-disant publique, est devenue complètement pro-russe et pro-chinoise.
Voilà un entretien à retrouver dans Accent d'Europe tout à l'heure à 19h10 temps universel ou en podcast sur le site de RFI et l'application Pure Radio. Puis à 19h40 en temps universel, le reportage qui nous conduit ce soir au Pakistan où avoir un lion ou un tigre domestique est de plus en plus tendance. Riches hommes d'affaires, industriels, propriétaires terriens ou trafiquants ont tous leurs zoos personnels sur les réseaux sociaux pour des influenceurs s'exhiber avec un félin sauvage est un symbole de puissance, chic et choc. C'est le cas de Samouila. Il nous parle de sa lionne Malika, grâce à qui il compte désormais des milliers d'abonnés sur TikTok et YouTube.
Je viens la voir tous les matins, mais je n'entre dans la cage que tous les 2-3 jours pour qu'elle reste passionnée et joueuse. Si je rentre tous les jours, cet amour peut se transformer en agressivité. C'est pourquoi il est préférable de garder une certaine distance.
Et voilà, lions et tigres de compagnie, une obsession pakistanaise. Un grand reportage de Chasseib Walla, Sonia Ghezali avec la collaboration de Tala Sayed à écouter en intégralité dès 19h40 en temps universel. Et puis à 20h10 temps universel, la libre antenne de couleurs tropicales avec une séquence dédiée à l'anniversaire de l'émission pour célébrer les 30 ans passés auprès des auditeurs. Julien Choléwa, directeur du centre culturel La Place à Paris, centre consacré au hip-hop, viendra aussi présenter la 5e édition de la L2P convention qui aura lieu du 13 au 15 mars. Pour l'occasion, on écoute tout de suite un extrait de I Said What, I Said, un titre de Druma Boy. Cowardly lying, y'all be cowardly lying about all the money you make or the money you fake. 22 acres raining money soon as you come in my gate. Let it monsoon with the stormtroopers. If stars warring, I'm George Lucas. Don't blame me if your whore choosing like Eazy-E. I was born ruthless. Attitude is on nigga rich and driving whips off the dealership. Fuck school, all I had to learn was reading contracts and good penmanship. No censorship, this is real as it gets. I'm a boss boy, you a worker. I'm a savage dog, my catalog will kill. L'heure tropicale spéciale chanson engagée à 20h10 temps universel sur RFI. Ainsi s'achève cette première édition d'Afrique Soir. L'info continue sur Radio France Internationale avec à suivre dans un court instant un nouveau journal largement consacré à l'actualité dans le reste du monde. It's a champagne popping ass, Impala hopping ass, Mexicana bitch about to pop shit. Por si no sabían, esta mami go from speaking Spanish hasta barras en inglés, I'll give you options. I'm up in this bitch, I got the whipping bitches topless. Got it on my own, I know the margins and the profits.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain.
Émission spéciale sexualité avec la sexologue Noël Caillarcy.
Vendredi.
Question de femme, question de parents, les soins du bébé.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur